Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sautreau. Père Nicolas Sautreau, bonsoir.
Bonsoir à vous tous, heureux de vous retrouver. Alors j'ai entendu les échos et vous avez été nombreux à être au minimum intrigués, ou voire plus intéressés, étonnés par ce phénomène de l'improvisation. Le fait que le chant de l'exultète a été pendant un temps laissé à la capacité d'improvisation du texte au diacre qui le chantait. Donc cette période de l'histoire de l'Église, qui a duré environ trois, quatre siècles, pendant lesquels il y avait cette invitation à la surabondance du cœur, à l'improvisation, y compris pour des moments aussi uniques, aussi solennels et immenses que la veillée pascale. Alors, en réponse à ces réactions, je voudrais vous proposer simplement un parallèle entre le chant de l'exultète presque au début de la veillée pascale et un autre texte extrêmement célèbre, celui de la séquence avant l'évangile, le jour de la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Cette séquence qui commence par les mots en latin « Laudation Salvatorem » et dont un certain nombre de spécialistes nous disent qu'elle serait de la plume et du cœur et de l'âme de saint Thomas d'Aquin, que cet ensemble de l'office de la fête Dieu serait dû au génie de saint Thomas d'Aquin. Et cette séquence est aussi un texte de louange, d'action de grâce, très développé, plutôt long, et qui ne cesse d'ajouter louange à louange, célébration à célébration. Ce texte du Laudation Salvatorem, presque au début, dit « Autant que tu le peux, ose la louange. » Donc, fais l'impossible pour louer, car il est au-dessus de toute louange, ce Saint-Sacrement, et tu ne peux jamais le faire assez, tu ne peux jamais assez louer. Autant que tu peux, ose les paroles de louange. Le motif spécial de louange qui t'est proposé aujourd'hui, c'est le pain vivant, le pain qui donne la vie. D'une façon tout à fait parallèle, il y a cette louange à l'égard du cierge pascal, à l'égard de ce symbole du Christ ressuscité, qui n'est qu'un symbole à la différence, bien sûr, de l'Eucharistie, à la différence du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Mais il y a cette même invitation à déborder de louanges, comme le dit la traduction qui est sous les yeux, à faire l'impossible pour louer, à laisser le cœur déborder totalement. Et on peut vraiment trouver des points de contact assez nombreux entre cette louange eucharistique et puis l'Eucharistie du lucernaire, l'Eucharistie du cierge pascal et de la lumière que nous sommes en train d'écouter au début de la veillée pascale. Il y a des points de contact dont nous allons relever un en particulier dans quelques minutes qui nous font deviner qu'au moment où il fallait composer un texte pour célébrer les louanges de l'Eucharistie, les louanges de la présence réelle du Seigneur Jésus dans l'Eucharistie, c'est le texte de l'exultète qui sortait du cœur. Qu'il y a comme une espèce de matrice, une espèce de louange qui donne sa forme à d'autres louanges dans la grande Eucharistie lucernaire de l'exultète. Et que nous nous sommes invités, comme nous le disions les semaines précédentes, à essayer de retirer tous les fruits spirituels de notre participation à la veillée pascale. Et parmi les moyens que nous propose le Père Bouillet, il y a le fait de prendre en main le missel avec le texte de l'exultète et de le relire paisiblement, de l'assimiler, en même temps que nous nous rappelons à quel point nous avons été transportés de joie en écoutant ce chant pendant la liturgie, pendant la grande liturgie de la veillée pascale, en même temps cela, et en même temps essayer de scruter le texte comme le support d'une oraison personnelle, le support d'une méditation sur la résurrection, sur le mystère de la Pâque et sur la présence du Christ ressuscité. C'est ce que nous essayons de faire maintenant bien humblement en lisant à notre tour cette poésie de la liturgie, cette poésie inspirée, même si elle n'est pas parole de Dieu, cette poésie qui vient d'une grâce particulière accordée à ceux qui ont pu mettre un jour par écrit, ont pu fixer dans l'écrit ce qui avait été la louange pendant des décennies spontanées au cours de la veillée pascale. Voici que nous pouvons reprendre le texte et en arriver au moment où il va s'agir de célébrer avec l'encens à nouveau, comme l'encens avait été utilisé pour célébrer le feu nouveau, le feu originel, la source de tout ce qui existe. L'encens est abondamment utilisé pour célébrer la colonne de cire, pour célébrer le cierge du Christ ressuscité. La prière reprend en s'adressant à Dieu le Père, comme la prière eucharistique, comme la préface de la prière eucharistique. Père très saint, Père infiniment bon, Père de toutes les lumières, Père, en action de grâce pour cette nuit, puisqu'il s'agit aussi d'une célébration du mystère de la nuit. Mystère et sagesse de la nuit. Nous avons déjà dit à quel point presque toute la théologie mystique de Saint Jean de la Croix trouve ses racines les plus fortes dans la veillée pascale, dans la nuit de la résurrection. Eh bien, cette célébration de la nuit, cette célébration du mystère de la nuit qui est sainte, de la nuit qui est féconde, de la nuit qui est celle de la victoire, cette célébration-là a une place presque aussi grande que la célébration du feu et la célébration de la lumière. Action de grâce pour cette nuit. Le moment de la victoire du Christ, c'est la nuit. Reçois, Père très saint, le sacrifice de cet encens. L'encens offert en sacrifice comme dans le culte, dans tout le culte de l'Ancien Testament. La Sainte Église présente ce sacrifice de l'encens au moment où elle présente l'oblation solennelle du cierge de Pâques. On offre en même temps ces deux réalités de la liturgie, la cierge avec la cire qui se consume, qui fond et disparaît en chaleur et en lumière, et l'encens qui se consume, qui disparaît dans un holocauste d'amour pour devenir parfum, pour devenir à la fois nuée et parfum. Et il y a la volonté de mélanger complètement les deux symboles, comme cela devient très concret avec les clous d'encens qui sont plantés dans la cire, qui deviennent très associés, qui deviennent en communion avec la cire. Il y a la volonté de mettre en commun le parfum de l'encens et la lumière du cierge. Et nous offrons à ce moment-là le parfum de l'encens pour célébrer Dieu, bien sûr, toujours, et pour célébrer le mystère du cierge. Donc reçois, Père très saint, Père infiniment bon, reçois ce sacrifice de l'encens en même temps que l'oblation solennelle du cierge. Et reçois-les par la main des ministres et par l'œuvre des abeilles. Nous allons revenir sur ce mystère du travail des abeilles. L'abeille, la cire, le miel, ce sont des éléments de la liturgie juive comme de la liturgie catholique et de la symbolique catholique très forte. L'abeille qui nourrit et l'abeille qui travaille. Mon Père et moi, nous sommes toujours au travail, dit le Seigneur Jésus. Et l'abeille travailleuse, va devenir, d'une façon très délicate, très subtile, très effacée, un des symboles du Christ lui-même, à cause du travail, et à cause du fruit du travail de l'abeille, qui est le miel qui nourrit, la terre promise étant la terre dans laquelle coule le lait et le miel, donc la nourriture, l'Eucharistie et la lumière. Grâce à l'abeille, lorsque la nuit est là, la cire va permettre d'éclairer la nuit. Le Christ éclaire la nuit par cette cire mystique, cette cire sacrée de la connaissance et de la sagesse. Maintenant que nous savons le sens de cette colonne, dit le texte de l'Exultète, et le sens de cette colonne, c'est à la fois l'Ancien Testament, la colonne de feu et de nuée, et le Nouveau Testament, le Christ ressuscité. Voici qu'à l'honneur de Dieu, le feu rutilant allume cette colonne. Donc, à nouveau, le passage du feu à la lumière, le passage du feu nouveau au cierge de Pâques qui est éclairé, qui commence à accomplir son travail qui consiste à donner la lumière, à symboliser la lumière, mais aussi d'une façon extrêmement concrète, à donner la lumière. Puis vient ce passage qui fait tellement penser à la séquence de la fête Dieu, Laudationem Salvatorem, lorsque le diacre chante, quand sa flamme se divise, et bien que sa flamme se divise, le cierge pascal, la flamme ne subit aucun détriment de cette distribution de lumière. Au moment où nous chantons cela, d'une manière physique, d'une manière matérielle, le mystère de la distribution de la lumière s'est accompli, puisque nous avons allumé nos petits cierges au cierge de Pâques. Et le geste rituel est éclairé par le chant de louange. Quand la flamme du cierge pascal se divise, elle ne subit aucun détriment. Elle continue à éclairer. Elle n'est pas affaiblie, elle n'est pas diminuée. Dans la séquence en l'honneur du Saint-Sacrement, il y a au sujet de la Sainte Eucharistie cette belle célébration qui dit que celui qui reçoit le Saint-Sacrement ne le rompt pas, ne le brise pas, ne le divise pas, il le reçoit tout entier. Un seul le reçoit ou mille le reçoivent, celui-là reçoit autant que ceci. Quand il est reçu, il n'est pas épuisé, il n'est pas consommé. L'Eucharistie jamais ne s'épuise, et nous savons bien que nous pouvons briser les hosties, les couper jusqu'à ce qu'elles deviennent des parcelles extrêmement petites, et que dans chaque parcelle est contenue tout entière la présence même du Seigneur. Quand le sacrement est rompu, que votre foi ne chancelle pas, souvenez-vous que la parcelle contient autant que le pain entier, la substance n'est pas atteinte, le signe seul est rompu, sans diminution de l'éclat ni de l'étendue de ce qui est présent. Et le texte de l'Exultète, quoique la flamme se divise, elle ne subit aucun détriment de cette distribution de lumière. Le rapprochement que les siècles de la liturgie nous permettent de faire entre le cierge de Pâques et les espèces eucharistiques est vraiment saisissant. Il y aura une disparition du symbole à la fin de la veillée pascale avec la célébration, une disparition au niveau de la puissance, puisque le cierge pascal va rester là, une disparition symbolique au profit de la présence réelle, mais il n'empêche que les deux signes sont rapprochés avec beaucoup de force, et que c'est vraiment une sorte de présence du Christ ressuscité d'entre les morts, et qui est célébré, qui est loué, qui est chanté grâce à la prose de l'Exultet, à la longue prose de l'Exultet. Ce qui est loué et chanté est vécu par nous. Nous allons chercher la lumière au cierge pascal, et une fois que nous avons pris la lumière, le cierge est toujours là. Notre participation à la lumière du Christ n'épuise jamais la splendeur et la gloire du Christ. Les biens spirituels ont ceci de particulier, ceci de plus grand que les biens matériels, que lorsqu'on les partage, ils ne diminuent pas. Et que par la toute-puissance de Dieu, même lorsque nous partageons notre foi, notre espérance et notre charité avec le prochain, au lieu de l'avoir diminuée, elle devient plus incandescente, plus profonde et plus rayonnante. Les biens spirituels ne subissent aucun dommage du fait d'être distribués, d'être communiqués, d'être offerts à notre prochain. Avant que le texte ne soit vraiment codifié, pratiquement tel qu'il est aujourd'hui dans la liturgie romaine du Moyen-Âge, il existait à ce moment-là un éloge des abeilles développé, très romain, très latin, qui fait penser au poète Virgile. Et il y avait vraiment un long développement sur le symbole de l'abeille, le travail de l'abeille, et cette très très belle idée que nous sommes aussi, puisque le Christ est symbolisé par l'abeille, nous sommes aussi appelés à devenir comme des abeilles de Dieu, comme des abeilles fidèles, laborieuses encore une fois, des abeilles fécondes, rassemblées dans l'unique riche ruche, excusez-moi, même si elle est riche, la ruche du Seigneur, dans l'unique ruche du Seigneur, rassemblée sous la direction du Christ ressuscité, rassemblée chacun à sa place, chacun en état de faire ce que Dieu lui demande, est capable de fournir la nourriture et de fournir la lumière, de fournir la connaissance de Dieu. Très beau développement qui nous permet de nous souvenir en permanence que ce cierge pascal, c'est avant tout de la cire d'abeille. Une fois ce passage par le mystère des abeilles accompli, le texte de l'Exultet revient à ce qu'il avait commencé de faire, la célébration de la nuit. La volonté de nous enseigner ce qu'est devenu la nuit depuis la nuit pascale. Ô nuit vraiment bienheureuse. Alors, ceux qui ont le bonheur de lire régulièrement Saint Jean de la Croix retrouvent exactement le poème de la montée du Carmel ou de la nuit obscure. Ô nuit vraiment bienheureuse, qui a dépouillé l'Égypte et qui a enrichi les Hébreux. Et là, nous avons déjà une évocation du sacrement du baptême. D'un côté, l'aspect négatif du baptême, dépouiller l'Égypte, la purification du péché, la libération des grandes conséquences du péché originel, la domination sur les ténèbres et sur le mal, le côté négatif, et de l'autre, le côté positif du sacrement du baptême, du fruit du sacrement du baptême, enrichir les Hébreux, c'est-à-dire enrichir les baptisés, les enrichir avec le mystère de la grâce divine, la grâce incréée, la présence même de la Trinité au fond de l'âme, et la grâce créée, avec en particulier les vertus théologales et les dons du Saint-Esprit. Nous sommes à la fois purifiés et enrichis. enrichi par la nuit du baptême, par le mystère nocturne du baptême. Nuit dans laquelle les cieux sont unis à la terre, la divinité à l'humanité. Mystère plus que de réconciliation ici, mystère de communion. Mystère de communion tel qu'il commence avec l'union hypostatique, l'union de l'humanité avec la divinité dans l'unique personne du Verbe fait chair. Mystère d'union, de communion qui se poursuit par la grâce, par les sacrements et par l'Eucharistie en chacun d'entre nous. Donc nous te prions, Seigneur. Nous devons célébrer cette nuit, parce que dans cette nuit s'accomplit le miracle de la communion. Le miracle de la communion donnée par le Christ à tous les sauvés. Nous te prions, Seigneur, afin que ce cierge consacré à l'honneur de ton nom pour détruire les ténèbres de cette nuit demeure sans déclin. Le cierge qui est là, sous nos yeux, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder, évoque cette lumière du Christ qui est sans déclin. C'est cela l'admiration face à une lumière en partie créée, c'est la sainte humanité du Seigneur Jésus, et une créature qui peut ne pas connaître de déclin. Mystère de l'ascension et de la cession à la droite du Père de l'humanité du Seigneur Jésus, le Christ ne connaîtra jamais de déclin. Toutes les choses que nous connaissons ont une fin, hormis Dieu, bien sûr. Eh bien, la première, l'humanité du Seigneur Jésus, va être cette réalité personnelle créée qui ne connaîtra pas de fin, qui ne connaîtra pas de déclin. Et le cierge doit lui aussi rester allumé, doit rester symboliquement allumé pour évoquer ce mystère de la mort vaincue, mais de la mort vaincue définitivement. Que reçue en odeur de suavité, ce cierge allumé soit mêlé au luminaire céleste. Alors, nous verrons un peu plus loin une des interprétations possibles de cette prière, que le cierge non seulement soit largement aussi pérenne que la lumière des étoiles, mais que même il la domine et qu'il manifeste une lumière autrement plus éternelle que ne l'est en apparence celle des étoiles. Que l'étoile du matin le trouve enflammé, mais la vraie étoile du matin, l'étoile du matin qui ne connaît pas de couchant, cette étoile du matin qui, revenue des enfers, a brillé dans la paix sur le genre humain. Mystère du Christ, soleil levant, plus que étoile du matin, soleil levant, revenu des enfers et qui communique la paix à toute l'humanité. Bien modestement, bien humblement, la lumière du cierge pascal qui continue à briller lorsque la liturgie sera complètement terminée, la lumière du cierge pascal évoque une telle lumière du soleil de justice qui ne connaît pas de couchant et qui communique sa propre vie éternelle. C'est sur cette admiration pour le soleil levant, le soleil de gloire, le soleil qu'est le Christ, que je vous propose de méditer en musique.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sautreau. Nous parlons aujourd'hui de la liturgie de la lumière. Père Nicolas Sautreau, vous nous parlez donc de cette lumière particulièrement éclatante lors de la veillée pascale, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à d'autres moments liturgiques dans l'année. Il y a bien sûr la présentation de Jésus au temple, où il y a donc ces cierges que reçoit en début de célébration. Et également, donc dans certaines paroisses, cela se fait pendant le temps de l'Avent, les messes roratées, où c'est très tôt le matin et les seules lumières qu'il y a, c'est les cierges, la lumière des cierges.
Oui, auquel on peut ajouter, grâce à la musique que nous venons d'entendre, Lux Aeterna, que je n'ai pas choisi, mais je remercie la programmation, le cierge pascal pendant les funérailles. Évidemment, lorsque nous regardons le cierge pascal, le cierge de la Pâque, le cierge de l'entrée dans l'éternité, nous pouvons aussi avoir ces souvenirs qui remontent de toutes les funérailles auxquelles nous participons, pendant lesquelles le cierge symbolise la présence du Christ ressuscité auprès du défunt. Et toute cette symbolique de lumière éternelle, c'est ce que disait le texte du chant que nous avons entendu, que la lumière éternelle soit donnée à nos défunts, qu'ils puissent la goûter pour toujours, toute cette idée de la lumière éternelle permet d'éclairer d'une façon complètement différente le mystère de notre propre Pâques, le mystère de notre destination d'éternité. Et sans assombrir la grande joie de la veillée pascale, le lien entre le cierge du jour des funérailles et le cierge de la nuit pascale est au contraire porteur d'une très grande espérance et d'un très très grand réalisme. C'est vraiment le cierge de Pâques, et c'est ce que veut exprimer le symbolisme dont nous avons déjà parlé de la colonne de feu. La colonne de feu destinée à guider hors d'Égypte l'Israël nouveau que nous sommes. Et nous nous laissons guider par le Christ ressuscité et nous laissons empoignés par sa puissance de ressuscité pour être arrachés aux ténèbres et introduits dans l'admirable lumière de Dieu. Cette colonne de feu est tellement essentielle pour nous faire vivre en même temps le mystère de la Pâque des Hébreux et le mystère de la Pâque du Christ. C'est le parallélisme entre les deux Pâques, l'ancienne et la nouvelle. Même si la mesure entre les deux est totalement démesurée, on passe pratiquement du terrestre à l'infini, on passe d'un événement qui, initialement, est l'événement de la vie d'un peuple parmi les autres, à un événement non seulement d'élection, mais un événement qui touche l'éternité, qui touche la transformation de toute la création elle-même. Les deux Pâques qui sont comme réunies par cette unique colonne de feu qui est passée de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le baptême qui va venir un peu plus loin dans la veillée pascale, est pour ceux qui reçoivent le baptême un nouveau passage à travers la mer Rouge. Ils vont eux aussi suivre la colonne de feu. Et ce passage va les amener du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu, du Fils de l'amour éternel du Père. Et à la suite du Christ ressuscité, mais une suite qui n'est pas morale, une suite qui n'est pas intellectuelle, une suite qui est existentielle, une suite du Christ qui saisit toute la personne, à la suite du ressuscité, les baptisés vont passer de la mort à la vie. C'est dans cette nuit pascale que l'esclavage a cessé, que le Christ vainqueur a rompu nos chaînes. C'est cette manière de comprendre le baptême à partir de la Pâque juive, à partir de la première Pâque et ensuite de toutes les célébrations de Pâques, c'est cette manière de comprendre le baptême que le Nouveau Testament lui-même, surtout dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10 et dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11, c'est cela que le Nouveau Testament va nous enseigner. Et à sa suite, les grands théologiens, les grands spirituels des premiers siècles, ne vont cesser de nous dire et de nous redire « Ton baptême, c'est la Pâque. Ton baptême, c'est ton passage de la mer Rouge, c'est ton passage de l'oppression à la liberté, c'est ton passage des ténèbres à la lumière. Et prends le temps de relire l'Exode, de relire l'histoire de cette Pâque de nos frères hébreux, et en reprenant le temps de relire ce texte, le Seigneur Dieu en personne va t'enseigner la grâce de ton propre baptême. Et dans le chant de l'Exultet, il y a toute cette reprise par chacun d'entre nous, une reprise très personnelle de l'histoire sainte du peuple hébreu pour en faire un acte de louange. Et la prière devient cantique pour célébrer, pour chanter à ce moment-là la rédemption accomplie par le Christ et l'amour de Dieu qui se manifeste dans la rédemption. Et vous vous souvenez, une manifestation de l'amour de Dieu tellement merveilleuse que le texte va dire « Ô bienheureuse faute !» Ô bienheureuse faute. Le péché des origines, qui est appelé à ce moment-là péché nécessaire, c'est des extrémités de la poésie d'aller jusque-là, une telle extrémité que dans la liturgie de Cluny, on va supprimer de l'abbaye de Cluny au XIe siècle, on va supprimer ce passage parce que les grands penseurs, les grands théologiens vont un peu froncer les sourcils en disant la poésie doit avoir des limites. Il faut que tout ça soit en accord avec le plus essentiel du dogme, et dire péché nécessaire, c'est aller un petit peu trop loin. Mais par contre, chanter bienheureuse faute, oui, cela c'est une poésie légitime. Bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Nous célébrons notre libération. Nous célébrons dans cette veillée pascale ce triomphe de la lumière, et grâce à la grande poésie de l'Exultet, nous le célébrons en communion avec tous ceux qui nous entourent, et nous le célébrons en communion avec tous les siècles précédents. La Pâque, telle qu'elle est présentée dans l'ensemble de cette louange, c'est un mystère, encore une fois comme le baptême, un mystère de séparation, un mystère de dépouillement. Le vieil homme est dépouillé. Mais en même temps, la Pâque est mystère de libération, d'enrichissement et d'union. La Pâque de la résurrection consomme l'union de la divinité à l'humanité dans le Christ. Et c'est ce mystère d'union, encore une fois, que nous anticipons à ce moment de la veillée pascale. Nous savons que l'union entre toute l'humanité et la divinité du Christ est d'une certaine manière déjà parfaite dès le premier instant de l'incarnation, dès le mystère du 25 mars, mais néanmoins, c'est dans la résurrection du Christ que la divinisation de l'humanité va se révéler complète. Et voilà pourquoi Pâques, le mystère de la résurrection, est ici présenté comme un mystère de communion. Mystère de culte et d'adoration de la lumière, mais ensuite mystère de communion à la lumière. Notre liturgie, à ce moment-là, souhaite de toutes ses forces être associée à celle des anges, qui, elle, est célébrée dans la lumière inaccessible où Dieu habite. Mais cette lumière inaccessible de Dieu est descendue jusqu'à nous, et nous avons célébré ce mystère étonnant qu'elle soit descendue jusqu'aux enfers, pour ensuite nous transporter en elle pour l'éternité. Et je vous le disais tout à l'heure, j'en arrive là, le texte de l'Exultète nous propose une allusion très subtile à une croyance des premiers temps de la vie de l'Église, qui s'occupait tellement de la venue du Christ, ce qu'on appelait le retour du Christ, la parousie du Seigneur Jésus. Cette croyance disait que la parousie allait se produire pendant la veillée pascale. Alors tout ça n'est qu'une croyance, si vous voulez, même dire qu'on est à nouveau dans l'ordre de la poésie et un peu des excès, des prétentions excessives de la poésie, mais il y a un bel enseignement spirituel derrière. Si il devait y avoir un moment plus excellent que les autres pour que se produise la parousie du Seigneur Jésus, ce serait pendant la veillée pascale. Pendant que nous célébrons la veillée pascale, il y a une attente de la manifestation glorieuse du Seigneur Jésus, et qui est tellement sainte, tellement forte, qu'elle pourrait se voir exaucée. Bien, l'étoile du matin, dont la clarté viendra luire dans le ciel du cierge pascal, ce serait cette évocation de l'ultime venue du Seigneur Jésus. Le Jésus de la résurrection, notre Christ ressuscité, celui que nous avons vu monter au ciel, en reviendra comme il est parti, disent les Actes des Apôtres au chapitre 1er, pour nous prendre avec lui et nous établir à jamais dans cette lumière qui ne connaîtra pas de déclin, qui ne se couchera jamais. Peut-être qu'une des manières spirituelles très saintes de vivre intensément la veillée pascale, c'est d'en faire un moment pendant lequel l'ultime Pâque, après la Pâque des Hébreux et les célébrations de la Pâque des Hébreux, après la Pâque du Christ, après notre Pâque baptismale, après la Pâque de notre propre passage vers l'éternité de Dieu, l'ultime, la grande Pâque dernière, celle de l'entrée de toute la création dans la béatitude divine, eh bien, cette ultime Pâque devrait intervenir. Et nous sommes ainsi en état d'attente, en état de prière, en état de vouloir que s'accomplisse pleinement le dessein de Dieu, le mystère de Dieu. C'est le Maranatha, viens Seigneur Jésus, de l'extrême fin du livre de l'Apocalypse, qui vient d'une certaine manière présider à la teneur spirituelle de toute la veillée pascale. C'est dans cette sainte attente que je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sautreau. Aujourd'hui, le thème était la liturgie de la lumière et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.